France Inter, le 18-20.
Si vous êtes parisien et que vous voulez acheter, la moyenne désormais du mètre carré, c'est 9000 euros. Ça fait plus 10% en une année pour acheter à Bordeaux. C'est plus 12 à Bourges, plus 13 à Amiens, plus 11. L'immobilier dans l'Inde, c'est boom, comme il en a déjà connu. Mais l'année est record. On vend beaucoup. Mais à qui, si l'accès à la propriété a toujours été très haut dans les préoccupations des Français, l'est toujours? Qui aujourd'hui en a les moyens, en tout cas dans les grandes métropoles où est aussi le travail le plus souvent? Comment fait-on quand on est jeune, quand on est en CDD, quand le salaire n'est pas mirobolant, c'est le cas d'un peu tout le monde? Est-ce qu'on a d'autres choix que de rester locataire? Ou alors, faut-il construire plus? Faut-il étendre les centres-villes? Faut-il en faire d'autres? Il y a boom, mais y a-t-il bulle et donc risque d'explosion? Vos questions font l'émission, c'est maintenant, soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Et François, soyez le bienvenu, c'est vous qui commencez. Bonsoir François.
Bonsoir.
Allez-y.
Oui.
Et je vous écoute François.
Alors, j'ai appelé au début de votre émission parce que j'étais concerné par le sujet cette année.
Bah allez-y, on vous écoute.
J'ai vendu mon appartement à Paris cette année, cet été, là, assez cher. Et j'ai acheté une maison en province, en Bretagne, à Concarneau, beaucoup moins cher que l'appartement, 100 000 euros de moins avec 100 mètres carrés de plus. Donc j'étais satisfait, et faut vous dire que les appartements, même dans l'ancien, alors je parle de Paris intramuros, dans le 20e arrondissement, c'est le beau quartier, c'est le quartier de Gambetta, mais ça a pas mal augmenté, et il y a bien sûr toujours plus de demandes que d'offres. Alors les appartements se vendent très vite, et même avec un appartement à refaire, j'ai eu beaucoup d'offres par mon agent immobilier, je l'ai vendu très rapidement.
Vous allez dire, vous l'avez vendu en combien de temps? Est-ce que vous l'avez vendu en 24 heures?
Alors, pas 24 heures. J'aurais pu le vendre en 24 heures, mais là, malheureusement, la première personne qui était d'accord pour prendre le garage avec et tout, elle s'est désistée parce qu'elle n'a pas eu l'acceptation de son prêt.
Ah, vous aviez un garage, si j'avais su.
Voilà. Donc, j'avais un garage en sous-sol et tout, à 100 mètres, donc c'était très utile. Et donc, je l'ai acheté avec la deuxième personne, la deuxième jeune femme, et elle était chanceuse puisque ses parents finançaient le prix de l'appartement.
Donc ça veut dire que ça a été
dans le quartier.
Ouais. En tout cas, ça veut dire que ça a été extrêmement vite.
Le lendemain, l'agent immobilier s'est mis sur la deuxième personne dans l'ordre, qui avait visité l'appartement et qui a été très heureuse, et surtout ses parents, de pouvoir loger leur fille dans leur quartier. Ils ont acheté l'appartement rapidement et ça s'est fait rapidement.
Merci beaucoup. Merci François pour ce témoignage et longue vie à Concarneau, donc dans vos 140 mètres carrés, qui effectivement doit vous changer du 20e arrondissement de Paris. Pour vous répondre et pour débattre avec vous, discuter avec vous ce soir au téléphone sonne, Julien Damon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po. Vous avez notamment écrit « Un monde de bidonville, migration et urbanisme informel ». C'était chez Seuil. Bonjour Alain Dinin.
Bonsoir.
Vous êtes PDG du groupe immobilier Next City. Tiens, je vais commencer avec vous Alain Dinin. C'est vrai que, j'allais dire, on enfonce un peu une porte ouverte avec François quand on déménage à Concarneau. Évidemment, c'est beaucoup moins cher. Mais c'est vrai aussi que les disparités sont énormes et qu'avec 9000 le mètre carré là à Paris, est-ce qu'on n'a pas passé un cap?
On a passé un cap depuis très longtemps. En fait, depuis 2000, les prix ont augmenté de 42% sur les 10 dernières années. Depuis 3-4 ans, on est dans la fourchette 8500-9000. Bon, cette année, on atteint ce pic-là. Il faut regarder les causes et les conséquences. Les causes, la baisse des taux d'intérêt a redonné de la solvabilité. Et puis, comme le disait ce monsieur François, de façon très intéressante, il y a une offre faible et une demande forte. Au fond, l'insuffisance de production de logements neufs, l'insuffisance de stabilité des lois, la fiscalité, tous ces sujets-là est venu surenchérir très considérablement les problématiques du logement. Et puis deuxième information qu'il a donnée de façon très, très subtile, c'est la jeune dame qui a acheté le logement en question, c'est ses parents qui lui ont payé. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir acheter dans Paris intramuros ou dans les grandes villes, comme on est largement au-dessus de la moyenne et même de la médiane des salaires, des revenus des ménages, eh bien, il faut trouver des ressources ailleurs et donc avoir été héritier ou avoir des parents ou avoir revendu plusieurs fois un appartement, fait de la plus-value nette d'impôt sur sa résidence principale pouvoir bénéficier de ça.
Et ça veut dire, Julien Damon, ça veut dire que quand les revenus sont disconnectés, en fait, sont déconnectés, on a pour le coup, là, passé un cap qui change tout. Le revenu n'a plus rien à voir avec ce qu'on achète désormais, en tout cas dans ce genre de prix-là.
Ah, le revenu de la jeune fille, probablement non, ça ne lui permettait pas d'acheter ce bien. Et en effet, ce sont ses parents qui, avec un bout de patrimoine certainement, lui ont permis d'acheter son logement. Mais moi, le 9000 euros, bon, parce que c'est un nouveau seuil, certes, tout progresse, donc chaque euro en plus, c'est un nouveau seuil. Mais à la louche, un mètre carré à Paris, c'est 90% d'une année de SMIC. Voilà, enfin, je vais vite. Voilà, donc pour loger les gens qui sont avec des revenus autour du SMIC, s'ils veulent s'acheter un 20 ou 30 mètres carrés, il leur faut 20 ou 30 ans d'activité, de revenus, mais ils n'achètent strictement rien d'autre. Donc, il y a ce problème majeur qui est que des gens qui font vivre la ville, c'est une expression qui est connue, ne peuvent pas se payer la ville. Des gens aux revenus modestes, classe moyenne inférieure. Après, François, il a tout raconté. Ouais. Hein, on pourrait arrêter l'émission ici et dire François,
non, 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 mais on va pas l'arrêter tout de suite.
Il y aura d'autres questions sur des sujets, c'est ça, peut-être plus brûlant, plus embarrassant, mais là, il a
mais
bien
du
montré.
Coup, est-ce que ça veut dire, et ça c'est vraiment une question pour le sociologue Julien Damon, est-ce que ça veut dire qu'on pense mal la ville, en fait ? S'il y a un problème d'offre, il faut peut-être aussi repenser la ville, repenser l'offre à l'intérieur de la ville, repenser aussi qui va acheter et dans combien de temps ? Après tout, la démographie sera pas la même, il y a plus de seniors, il y a des familles recomposées, enfin, tout ça change aussi et change les villes, non ?
Oui, la vie change, donc les villes changent. Mais il faut mettre les villes au pluriel. Là, on parle de Paris.
Alors, mais
Paris,
les villes, en parlant des métropoles, parlons des grandes villes.
Mais sur Paris, et ce doit être vrai aussi de l'ensemble des villes qui se sont vues donner le label juridique de métropole, vous avez en gros une offre qui est finie, qui est globalement finie, ou qui chaque année progresse de 1% dans ces villes, et vous n'avez pas en prix, mais en volume, 1% de logements en plus, et vous avez une demande qui est infinie. Le problème de Paris, c'est ça. C'est une demande infinie pour une offre qui est très restreinte. Alors, en effet, s'il est possible de changer les vies, je trouve que quelque chose de formidable, c'est de pouvoir aller à Concarneau ou ailleurs, dans l'Oise ou dans le Sud.
Non, pas changer les vies, changer les villes. Changer les villes.
Pour changer les villes, il faut changer les villes. Le télétravail, toutes ces choses dont on parle depuis des décennies. Aujourd'hui, les systèmes d'information permettent de faire fonctionner ça. Et il vaut mieux avoir 100, 200 mètres carrés dans l'Oise ou à Concarneau, prendre un TGV ou un TER, si notre activité professionnelle le permet, que de passer l'essentiel de ses revenus dans un petit logement.
Alain Dinin, avant d'aller chercher Joanie à Bruxelles.
Voilà, alors ceci étant, si on parle de démographie, puisque c'était un thème,
aussi,
c'est effectivement, quand on regarde entre deux recensements, on a 3 millions de ménages supplémentaires en France, c'est-à-dire qu'il aurait fallu construire, juste pour absorber cette population, 400 000 logements par an. On sait que pour les 13 prochaines années, on aura encore 4 millions de nouveaux ménages, puisque la France est un pays à démographie forte. On sait aussi que cette population a tendance à se concentrer, même si elle a envie d'aller à Concarneau ou à la campagne, d'avoir sa maison. Elle se concentre quand même là où il y a des écoles, de la culture, de la santé et du travail, et que tous ces éléments-là viennent créer de la pression sur ce qu'on appelle les zones tendues. Et comme on n'a pas assez construit de logements neufs pour absorber le flux de population qui arrive, ben on se retrouve dans ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la partie finie, nous sommes dans des centres urbains où la seule façon de répondre serait de densifier encore, c'est-à-dire de construire plus haut, etc., ce qui pose d'autres types de problèmes. Et effectivement, vous posiez bien la question c'est pas le logement, c'est l'habitat, et l'habitat c'est la ville, c'est le mode de vie, quoi pour les familles monoparentales, quoi pour les personnes âgées, de quel type d'habitat pour le précaire, de quel type d'habitat pour les travailleurs pauvres, etc.
Joanie nous appelle de Bruxelles. Joanie, bonsoir.
Bonsoir.
Et on vous écoute. Pourquoi avez-vous déménagé à Bruxelles alors ?
Donc au début, moi, j'avais un projet d'achat immobilier en France. Je suis de Rennes et je cherchais autour de Rennes et de Nantes. Et donc j'avais besoin d'un. Je voulais donc acheter un appartement. Et malheureusement, avec le budget que j'avais, je ne pouvais pas imaginer avoir plus que 80 mètres carrés. Et donc aussi, je cherchais aussi un espace de travail. Et donc j'ai cherché pendant un an. J'ai fini par laisser tomber. Et finalement, j'ai trouvé à Bruxelles. J'ai maintenant 550 mètres carrés. Je suis à 10 minutes du centre-ville.
Pour le même prix qu'un 80 mètres carrés à côté de Nantes ?
Pour le même prix, j'ai payé 620 euros du mètre carré. Et j'ai en plus un abattement de la ville de Bruxelles pour pouvoir transformer une partie de mon atelier en appartement. Donc je vais avoir un appartement de 100 mètres carrés parmi ces 550. Donc je suis un peu triste de devoir quitter la Bretagne et la France et de déménager mon activité à l'étranger. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vraiment l'impression pour une fois d'en avoir pour mon argent et pour mes 10-15 ans de mon activité passée, l'argent que j'ai économisé. 80 mètres carrés, ça me paraissait vraiment un peu limite pour toute l'énergie fournie. Et là, maintenant, je suis vraiment aux anges et je vais rester en Belgique principalement pour cette raison. Et puis, la qualité de vie est aussi très bonne.
Vous êtes en plein centre de Bruxelles. Vous êtes dans le centre ou pas ?
Je suis à 5 minutes de la gare. Voilà. 12 minutes de la Grand Place. Donc oui, je suis à Anderlecht, mais c'est vraiment tout petit, Bruxelles.
D'accord, parce que vous allez me contredire si c'est pas vrai, Alain Dinard, mais je crois comprendre que Bruxelles fonctionne à l'inverse de Paris. C'est-à-dire qu'on, nous, on reste en centre-ville, les gens riches restent en centre-ville, pendant que les plus pauvres sont obligés d'aller se loger en périphérie où c'est moins cher. C'est l'inverse à Bruxelles.
Voilà, c'est l'inverse à l'étranger. Puis, la composition du prix d'un logement est assez complexe. La différence essentielle, par exemple, entre la France et la Belgique, ou d'ailleurs entre la France et l'Allemagne sur ces sujets-là, c'est la fiscalité latente autour du produit du logement. Parce que on parle beaucoup, vous savez, ces temps-ci, le gouvernement a beaucoup évoqué le fait que le logement coûtait cher à financer, 42 milliards. Le gouvernement français prend 70 milliards de recettes sur la fiscalité sur le logement, c'est-à-dire 42 milliards d'investissement par l'État, 70 milliards de recettes, c'est une très bonne affaire. C'est 3,5% du PIB. En Allemagne ou en Belgique, c'est 0,4% du PIB, c'est-à-dire que la fiscalité est du tiers ou du quart en Allemagne et en Belgique, en France. Donc, le poids sur le logement, et en particulier sur le logement dans les centres urbains, est nettement inférieur. Puis ensuite, la Belgique ou l'Allemagne, c'est en train d'inverser, ont des sujets de démographie inverses à celle de la France, où effectivement l'offre et la demande ne sont pas du tout de la même nature. Lorsque vous avez un flux de population qui arrive en Île-de-France, forcément, elle cherche à se loger, et donc elle fait pression, comme il n'y a pas assez d'offres, voilà.
En Belgique, 620 euros le mètre carré.
En Belgique, on n'est pas du tout sur ces sujets-là. Alors, ce que monsieur a évoqué sur les 620 euros le mètre carré, je pense que il a évoqué un atelier, j'aimerais bien savoir combien de travaux il a eu à faire dedans.
Joanie, vous êtes encore là ou pas?
Quel type d'aménagement, etc.
En prix
de revient final, vous seriez à quel prix
Là, je suis dans le bâtiment actuellement. Là, j'ai eu aucun travaux. C'est ça qui était magique.
Mais pour fabriquer, excusez-moi de vous interrompre, mais pour fabriquer vos 100 mètres carrés, il va falloir investir combien?
Pour l'instant, avec les architectes, on parle de 45 000 euros parce qu'il y a finalement, il n'y a pas de grosses œuvres. Et comme j'ai un abattement de 20 000 euros, ça va me coûter 30-35 a priori. Ouais, et on est sur des tout petits travaux. Hein,
et on revient sur l'avantage fiscal qui est donné pour la transformation. Voilà.
Julien Damon.
Il y a une expression belge alors que j'ai à l'esprit, je ne sais pas si je l'ai parfaitement en mémoire, c'est « tout belge a une brique à côté du cœur ». Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans cœur.
Il y a
coeur.
Aussi une expression qui dit « les Français ont une brique dans le ventre », autant que je sache. On peut tous acheter, ça veut dire ça.
Oui, mais c'est plutôt d'extraction belge, cette expression. Et je pense que les politiques publiques belges ont mieux organisé ce souci de voir leurs ressortissants, les Belges et autres, les Français ou autres qui veulent venir en Belgique, pouvoir accéder à la propriété. Ensuite, le fond de l'affaire, le fond du fond, c'est que, mais Alain l'a dit, c'est que la pression n'est absolument pas la même. Il y a beaucoup moins de gens qui veulent venir en Belgique, à Bruxelles, que de gens qui veulent venir à Paris, et même dans la périphérie parisienne. C'est aussi simple et aussi bête que ça.
Ou lyonnaise ou marseillaise,
oui,
d'ailleurs,
pardon.
En fait, parce qu'on n'est pas juste auto-centré sur
ou même
Paris.
Concarneau. Ou Rennes, cité au milieu.
Une question de Santiago au 01 45 24 7000. Bonsoir Santiago, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Merci de me prendre ma question.
Allez-y.
La question que je voulais poser, ça concerne l'investissement locatif. L'investissement locatif qui permet à une personne d'acheter un logement pour loger, il s'engage à loger pendant 9 ans minimum quelqu'un, en contrepartie d'une remise d'impôt.
Vous parlez de la loi Pinel donc, non?
La loi Pinel voilà. Notamment, qui a changé, qui a été modifiée à plusieurs reprises, d'accord. Etc. Et la question que je me posais, est-ce que cet élément-là n'est pas facteur de surenchérissement de l'immobilier, puisqu'en fait ces investisseurs vont payer plus cher un logement que s'ils étaient primo-accédants ou accédants à la propriété? Et d'autre part, n'y a-t-il pas une autre conséquence? C'est que qui dit défiscalisation dit que les impôts ne rentrent plus, alors que les collectivités locales se retrouvent devant l'afflux de logements à devoir créer des investissements pour répondre aux besoins de la nouvelle population. Un exemple précis, sur Bordeaux, et le représentant de Nexity sait de quoi je parle, sur Bordeaux, 70% de ce qui s'est construit a été acheté par des investisseurs extérieurs à la ville, et non pas par des primo-accédants.
Mais oui.
Merci beaucoup pour votre question, Santiago. Alain Dinard, vous confirmez le chiffre de Santiago? 70% des achats à Bordeaux, ce sont des achats
alors,
pour investissement?
Sur un programme donné, ça peut être le cas. Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, revenons aux fondamentaux du prix. Je crois que vous avez tweeté à savoir est-ce que le logement, c'est pour les riches.
Ouais.
La primo-accession.
Faut-il être riche pour ce
voilà.
Budget.
La primo-accession actuellement, il y a deux thèmes. Où j'ai de l'argent familial, où j'ai fait un certain nombre d'opérations qui me permettent d'avoir un apport personnel important.
et je peux acheter mon logement, ou alors je suis en primo-accession et je suis éligible à ce qu'on appelle le prêt à taux zéro, c'est-à-dire que je fais partie des revenus faibles et bas. On peut se poser la question, et beaucoup de primo-accédants d'ailleurs se posent la question de savoir si leur intérêt est de devenir propriétaire. Parce qu'ils vont changer 6 ou 7 fois de logement dans leur vie, ça les coince en termes de mobilité, etc. Donc un certain nombre d'élus et le politique pose la question de dire au fond, est-ce que l'important c'est plutôt d'être bien logé ou d'être propriétaire ? Si on est bien logé, il faut bien qu'il y ait des investisseurs. Comme le rendement locatif est faible, parce que dans le Pinel, il faut rappeler, dans le système Pinel, il faut rappeler que le revenu du locataire doit être plafonné et le loyer est plafonné. Il est de même type que les plafonds.
Et le loyer du locataire doit être sous le marché.
Il doit être sous le marché. Et assez nettement, par exemple, si on prend la région, si on prenait Paris, alors il n'y a pas de Pinel, il n'y a pas de produit Pinel dans Paris parce que le produit est trop cher. Mais le loyer est ce qu'on appelle au niveau du logement intermédiaire et s'adresse aux classes moyennes. Effectivement, les investisseurs ont naturellement besoin pour ça, quand on a 3% de rendement locatif et qu'en plus on a des impôts à payer, de la taxe foncière à payer, demain matin de l'IFI, si on leur donne pas une petite incitation fiscale, eh bien forcément ils y viennent pas, parce que le rendement n'est pas suffisant.
On a bien compris, vous voulez qu'on lâche la pression sur les propriétaires.
Non, je veux pas qu'on lâche la pression. Je dis par exemple que si demain matin nous alignons la fiscalité française et allemande, et que nous disions que nous avons la même fiscalité sur l'immobilier en France et en Allemagne, nous n'aurions plus besoin d'avoir de l'aide de l'État pour faire de l'achat et pour mettre les investisseurs dans le dispositif. Ouais. Le sujet, il est de nature politique. Pourquoi est-ce que le politique s'occupe de donner des avantages fiscaux à des particuliers ? Pourquoi n'est-il pas plutôt les investisseurs institutionnels, les grandes compagnies d'assurance, les caisses de retraite, à investir massivement dans le logement ? Quand on parle du logement en Belgique, en Allemagne, et dans la plupart des pays, et surtout dans les pays, je dirais, du nord de l'Europe, la grande qualité, c'est la stabilité de la fiscalité et des lois. En France, sur un produit de logement neuf, on a changé de fiscalité 18 fois dans les 20 dernières années. Donc comment voudriez-vous que la chaîne de production, à un moment donné, ne se soit pas grippée ?
Julien Damon, sociologue.
Il y a un point absolument majeur dans cette affaire, qui est celui du rendement locatif pour les investisseurs institutionnels. Et il y a une singularité française. Si on regarde simplement ce qu'est la situation du logement, avec des chiffres qui, sans être précis, donnent les ordres de grandeur. Vous avez 60% des gens qui, en France, sont propriétaires, accédant à la propriété ou titulaire complètement de la propriété de leur logement. 60% des gens sont propriétaires. 20% sont dans du logement social. 20% sont locataires dans du secteur privé. Et la singularité française, la grande singularité française, c'est que ces gens sont très majoritairement des locataires d'une personne qui a un ou deux logements et qui a un petit peu investi et qui ne rentrera pas forcément en plus de ça dans ses fonds. Et il y a très très peu de gens qui sont locataires d'investisseurs institutionnels. On est les derniers pays en Europe là-dessus, et un grand sujet de la politique du logement, c'est de savoir comment faire pour que de AXA à je ne sais pas trop quoi, BNP Paribas, les caisses de retraite complémentaires qui ont leurs affaires également, ou tel opérateur, puissent trouver intérêt à investir dans le logement.
Une question sur franceinter.fr. Quid du taux à taux zéro ? Est-ce que ça existe encore ? Est-ce que ça influence toujours ? Est-ce que ça marche toujours, ce prêt à taux zéro ?
Oui, le prêt à taux zéro permet à un couple de primo-accédants qui a par exemple à eux deux 25 000 euros de revenus de bénéficier d'avoir la possibilité d'acheter, c'est-à-dire avec ce prêt à taux zéro, quand ils vont aller voir leur banquier, ils ne dépasseront pas les fameux 33% d'endettement qui sont la norme en France. Si ce prêt à taux zéro est corrigé, il est en train d'être corrigé par le gouvernement, il va être maintenu dans un certain nombre de zones et abattu dans un certain nombre d'autres, eh bien effectivement on va aussi dire aux classes moyennes, en primo-accession ça va être de plus en plus difficile, surtout si on imagine, à un an ou deux d'aujourd'hui, une remontée des taux d'intérêt.
Alors je vais vous poser la question dans un instant, vous vouliez réagir Julien Damon.
Oui, sur le prêt à taux zéro, si la question est posée, c'est parce qu'il y a eu une inquiétude. Il avait été annoncé qu'en zone détendue il n'y aurait plus de prêt à taux zéro.
Et par les disparitions discrètes.
Oui, mais il y a une réapparition concrète lors d'une journée organisée par la Fédération française du bâtiment. Le président Macron a annoncé qu'il y aurait toujours ce prêt à taux zéro.
Oui, enfin qu'il serait modulé, qu'il disparaîtrait dans les zones détendues dans les années qui viennent.
Oui, voilà. La mode est à la modulation des prestations, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'il ne faut pas, d'ailleurs, qu'il y ait une modulation des prestations ? Je veux dire, après tout, on a besoin de construire, on a besoin là où sont les travails, là où sont les centres-villes, etc.
Oui, mais
après,
à ce moment-là, se poser la question de savoir comment on va redynamiser des villes moyennes, Julien disait, ça serait bien de pouvoir habiter dans des zones moyennes, mais si je n'ai plus d'incitation à la construction et le logement par nature est un produit
cher... Mais ce n'est pas la construction, c'est l'emploi qui mène à la construction, non ?
Oui, mais enfin, la poule et l'œuf, je ne sais pas si je peux me loger, donc si l'entreprise va venir s'installer, ou si elle va se rapprocher des centres économiques où il y a du logement pour les cadres ou les collaborateurs que je dois engager.
J'ai un message pour François qui nous a appelé tout à l'heure puisqu'il y a une réponse et qui dit message pour le premier auditeur donc qui achète en Bretagne après une vente à Paris. C'est aussi un problème pour nous Bretons puisque nous n'avons pas les moyens que les Parisiens peuvent avoir aussi lorsqu'ils viennent acquérir des biens près de la mer et ils participent ainsi à l'augmentation des prix sur nos côtes. Voilà. Et on le dit sans plaisanter parce que on entend bien en ce moment par exemple que les prix vont augmenter du côté de Bordeaux depuis le TGV, les prix avaient augmenté à Marseille au moment du TGV. Est-ce que c'est pérenne ça ?
Les prix vont augmenter en Île-de-France autour des nouvelles gares du Grand Paris.
Oui. Bah, ils ont déjà augmenté, parce que... mais on est en train de toucher en fait un sujet qui est le niveau maximum de solvabilité. Voilà, si on se faisait une projection, disons que effectivement on va toucher 9000 euros dans Paris intramuros, mais Paris intramuros, c'est une très belle ville, mais c'est une petite ville. Dans les grandes métropoles, Marseille, Lyon, Toulouse, Rennes, etc., les prix sont stabilisés, mais surtout le revenu des ménages ne permet plus de faire augmenter les prix. Donc la question sera de savoir si on veut une France de propriétaires, auquel cas... Pour cela, il faudrait que les prix baissent. Pour que les prix baissent, il faudrait que, je ne vais pas revenir sur la fiscalité, mais par exemple, il faudrait que les prix de terrain ne soient pas aux enchères.
Vous ne voulez pas revenir, mais vous revenez.
Non, mais je vais prendre un autre exemple. Tout à l'heure, j'entends dire que à l'Assemblée, le gouvernement vient de poser la détaxation des plus-values sur un certain nombre de propriétaires de terrain qui s'engageraient à vendre pour faire du logement privé ou du logement intermédiaire ou du logement social. On aurait une exonération des plus-values. Je trouverais ça acceptable. Pour le promoteur que je suis, c'est une très bonne nouvelle, parce que du coup, les vendeurs de terrain seront là. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de contrepartie sociale ? Pourquoi ne dit-on pas à ce moment-là, d'accord, mais le prix de votre terrain, il doit être plafonné ? Il faudrait arrêter, par exemple, de lancer des enchères sur les terrains, que tous les propriétaires, que ce soit la collectivité ou le particulier ou les entreprises, il faudrait plafonner les prix de terrain de façon, de même qu'on pourrait plafonner nos marges, puisque tout à l'heure on disait est-ce qu'on profite de l'augmentation des prix. Le but, au final, comme les commerçants que nous sommes, la question c'est de vendre le plus possible, et donc si on doit vendre un petit peu moins cher, mais qu'on arrive à vendre. Là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une augmentation des taux d'intérêt, que la fiscalité continue de s'accroître sur les sujets du logement, et que les prix de terrain flambe parce que les équipements publics, parce qu'il n'y a pas de limite à tous ces sujets-là, eh bien la clientèle de primo-accédants va disparaître, la clientèle d'investisseurs privés est fragilisée, et comme le disait Julien tout à l'heure, ben les grands investisseurs ne sont pas présents, alors que par ailleurs, ils investissent en dehors de l'Europe sur le résidentiel.
Mais justement, est-ce que ça ne peut pas finir par devenir non rentable d'acheter ? En fait, si les prix sont si hauts, de toute façon, à quel moment il devient finalement plus rentable pour quelqu'un de louer plutôt que d'acheter ?
Est-ce qu'il est rentable d'acheter ?
Alors.
Non, mais d'ailleurs, est-ce que c'est intéressant d'acheter quand on a 25 ou 30 ans ? Tout à l'heure, ce jeune homme qui était en Belgique, pourquoi est-ce qu'il achète ? Pourquoi est-ce qu'il immobilise du capital ? Pourquoi est-ce qu'au moment où il voudra partir, où il aura une mobilité, il sera obligé de revendre, etc. ? Peut-être qu'il pourrait être investisseur dans le logement par ailleurs et avoir un revenu locatif de l'autre côté. Mais. C'est bien le mode d'habitat dont on parle. Pourquoi faudrait-il, alors qu'on va déménager 7 ou 8 fois dans sa vie, être propriétaire au début de sa vie ? Mais pour ça, il faudrait trouver de quoi bien se loger. Et c'est bien le sujet posé, c'est le bien-logement. C'est pas la propriété qui est le sujet.
Audrey nous appelle au 01 45 24 7000. Justement, Audrey, vous êtes pile dans ce qu'on est en train de dire en ce moment. Bonsoir, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir, tout à fait. Moi, j'ai aucune vue comptable. La question ne s'est jamais posée. Nous, on est locataires, juste à côté du centre de Nantes. On a fait nos vies en tant que locataires, le temps d'avoir nos diplômes, etc. Aujourd'hui, il se trouve que nos vies professionnelles sont très proches du centre de Nantes. On a fait un choix. On ne peut pas acheter. Financièrement, c'est pas possible. Par contre, d'autres questions sont posées, notamment sur le transport. On est beaucoup mieux là où on est. Enfin, l'école de ma fille est à 100 mètres. Le travail de mon mari à 10 minutes, le mien à 20 minutes à pied. Donc, on a fait une croix dessus, clairement.
Pour la remarquer, il peut se passer plein de choses dans la vie d'Audrey.
Excusez-moi, est-ce que ça vous pose un problème d'avoir fait
absolument
une croix dessus ?
Absolument pas.
Voilà, donc, et au fond, vous avez une capacité d'épargne que vous placez sur autre chose, probablement, pendant ce temps-là ?
Bah, pour l'instant, ça dort.
Oui, ça dort. Ça dort parce que les taux d'intérêt sont bas.
En fait, on nous pose très régulièrement la question de pourquoi vous n'achetez pas ? Ça, on sent une vraie pression là-dessus. Et nous, on n'a aucun souci à ne pas être propriétaire.
Merci beaucoup Audrey. Julien Damon, effectivement la pression d'acheter elle existe, mais comment tu jettes ton argent par les fenêtres, tu es locataire, si tu avais acheté au moins cet argent, il serait dans ton appartement.
Oui, c'est la pierre que l'on n'a pas là, dans l'estomac, mais c'est la pierre valeur refuge là cette fois-ci, qui est, il est vrai, à la fois symboliquement et économiquement, ce à quoi n'importe qui peut aspirer pour disposer d'un patrimoine immobilier, parce que l'autre patrimoine est mobilier, peut-être bien plus risqué, même s'il y a des risques dans l'immobilier. Mmh. Donc, je voulais dire un mot sur les grands chiffres de tout ça, parce que sur 15 ans, les prix de l'immobilier, mais les prix de l'immobilier à l'achat, en moyenne en France, ont fait plus que doubler, hein, 150% d'augmentation. Les prix des loyers, contre toute attente, parce qu'on a l'impression que tout a explosé dans les prix de l'immobilier, ça n'a pas explosé. Mmh. C'est-à-dire que ça a augmenté à peu près au rythme des revenus des Français.
Ils baissent d'ailleurs un petit peu depuis 2 ans, hein, les loyers.
C'est-à-dire, oui, alors, le pouvoir d'achat immobilier, mettons l'achat, si j'ose dire, pour être propriétaire ou l'achat.
Mais c'est parce que tout le monde veut acheter, donc il y a une atonie de la demande, non, en location, non, c'est peut-être aussi ça la raison.
Non, il n'y a pas d'atonie.
Non, tout le monde. De fait, ce qui coûte cher, c'est d'acheter des mètres carrés. C'est absolument pas de les louer au regard de l'évolution des revenus. Donc, il est rationnel aujourd'hui de louer. Il est quasi rationnel, surtout au regard de ce que sont les ponctions fiscales en la matière, d'investir et d'acheter.
Est-ce que je peux me permettre ?
Vous pouvez vous permettre, enfin,
sur, ça dépend. Sur ces, non, mais d'étendre un tout petit peu le sujet sur ce problème de l'achat.
Ouais.
Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire avant 45 ans. Il est nécessaire d'être propriétaire après 45 ans. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre un prêt sur les 15 ou 17 prochaines années.
La première fois que j'entends un promoteur dire que c'est pas la peine d'être propriétaire, honnêtement. Mais allez-y, monsieur.
Après 45 ans, il faut l'être. Pourquoi faut-il l'être ? Parce qu'au moment de votre retraite, vous aurez une baisse de vos revenus, parce que nous sommes dans un système de retraite par répartition. Nous savons que ce système de retraite ne tiendra pas sur la distance et que si vous avez un loyer à payer en plus de la baisse de vos revenus, vous allez avoir un changement de votre niveau de vie qui va être assez conséquent. Alors qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être propriétaire dans la première partie de sa vie, qui est la période où vous avez besoin de plus de mobilité, de pouvoir faire des choix, etc. Et où immobiliser du capital, comme le disait Monsieur Hamon, c'est irrationnel sur le produit strict de l'achat immobilier.
Michel, vous nous attendez depuis 23 minutes et 26 secondes, c'est ce que j'ai sous les yeux, je suis désolé. Désolé, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Passion fait longueur de temps,
Exactement, allez-y.
Oui, alors effectivement, moi j'ai pu écouter largement, je vous remercie. Moi je voulais soulever le problème, la problématique de l'investissement locatif. Alors, et particulièrement sur la problématique que pose aujourd'hui Airbnb ou des plateformes de réservation, qui ont également tendance à pousser les investisseurs qui cherchaient, on parlait de rentabilité, on a parlé de taux de rendement, etc., qui vont chercher de la bonne rentabilité à acheter des logements petits ou de taille moyenne pour le mettre en location, non pas en location traditionnelle, mais en location courte durée, vont voir leur rentabilité passer de 3 à 6 ou 7 ou 8%. Et quand on se refinance finalement à 1,30, 1,40 avec les taux actuels, ça reste, ou 1,80 en fonction, ça reste extrêmement intéressant néanmoins. Et donc ce qui pousse d'une part le marché aussi à la hausse, c'est ce qui vide le marché de certaines surfaces pouvant être accessibles aux primo-accédants. Et là où je rejoins pas ce que disaient vos invités, c'est que ça peut être intéressant parfois néanmoins de regarder et d'investir quand on est jeune, avec peu de moyens au départ, mais des séquences de revenus qui tendent à augmenter. Dans
et
la
tant
durée,
que les taux sont très bas en fait.
Et qui permettront peut-être à 45 ans d'acheter plus grand et un peu plus définitivement. Et ça, c'est le premier point. Et le second point, effectivement, que je voulais faire, c'était dire qu'effectivement, donc, cette rentabilité ce marché Airbnb en parallèle avait aussi tendance à vider, à complètement assécher le marché de la location, parce qu'aujourd'hui, les propriétaires qui pourraient être des propriétaires bailleurs ne vont pas louer à des jeunes ou à des primo-à des jeunes actifs ou à des étudiants qui vont peut-être plus dégrader les biens quand on regarde un bien en type colocation et vont préférer le louer en Airbnb. C'est facile, c'est vite fait, on a l'argent tout de suite. S'il y a un trou dans un mur, on prend sur la caution qui a été versée et en plus de ça, on peut bénéficier, on peut héberger ses amis, sa famille une grosse partie de l'année sans pour autant bouger son taux de rendement.
Merci beaucoup Michel. Je précisais que vous êtes agent immobilier, donc effectivement, c'est des problématiques que vous voyez. Je vous voyais tous les deux vouloir réagir, Alain Dinin et Julien Damon. Est-ce qu'on commence vite par Airbnb.
Airbnb. Ben voilà. Tout a été dit dans le propos quand on a dit que c'est un marché parallèle. Il faut même aller jusqu'à dire que dans certaines circonstances, c'est un marché même illégal. Enfin, on n'achète pas des logements pour les mettre en location par Airbnb. Là, en l'espèce, à la fois une URSSAF ou le fisc peuvent retomber dessus et c'est nécessaire
mais
pour requalifier.
Les grandes villes sont en train de s'emparer du problème.
Regardez Paris, c'est absolument incroyable. Hein. Moi, je pense qu'en effet, on peut investir dans n'importe quelle économie informelle et illégale et avoir des taux de rendement plus élevés que dans ce qui est légal et formel.
Mais est-ce que Airbnb réellement, parce que c'est le cas effectivement pour ce qui est de l'hôtellerie, c'est le cas aussi pour le marché de la location d'ailleurs, mais est-ce que vraiment Airbnb et autres plateformes a complètement transformé en fait le marché immobilier ou pas ?
Dit-on, mais probablement dans des quartiers bobos sympathiques parisiens, mais pour les 65 millions de personnes qui vivent dans l'Hexagone, non.
Alain Dinan.
Oui. D'abord, je voudrais reprendre et effectivement dire que je suis d'accord avec l'intervention sur la notion propriétaire. Être propriétaire de sa résidence principale n'est pas économiquement calculable. Être propriétaire pour être investisseur, c'est une façon, effectivement, par la différence de taux d'intérêt, j'emprunte à 1,80 et je loue à 3%, de faire une économie et de capitaliser sans avoir eu besoin de mettre de l'argent au départ. Donc la problématique, pression fiscale mise à part, d'être propriétaire investisseur est toujours un sujet, même à 25 ans, pourquoi pas. Ensuite, sur la problématique Airbnb, et sur l'évolution des loyers, ce qu'on évoque ici, c'est une toute petite frange de quelques investisseurs, parce que malgré tout, si on est dans Paris intramuros, parce que Airbnb, c'est essentiellement dans Paris intramuros, le prix au mètre carré à 9 000 € le mètre carré, c'est pas donné à n'importe qui, même d'acheter 30 mètres carrés. Le problème, comme le disait Julien Damon, c'est qu'on est 65 millions de Français, qu'il y a 4 millions de mal logés, qu'il y a besoin de fabriquer 400 000 logements par an pour la population qui arrive, et que tous les prix ne sont pas compatibles aujourd'hui, aucun des prix n'est compatible aujourd'hui, avec la capacité d'achat de la plupart des ménages et que l'investissement locatif est en difficulté. Voilà les deux sujets et je pense qu'on ne peut pas limiter notre propos à quelques cas particuliers de cette nature. C'est vrai que Airbnb, c'est un marché parallèle et qu'il faut y réfléchir, mais qu'il y en a d'autres de ce type de marché.
Allez, nous habitons à Aix-en-Provence. Nous voyons grimper de manière considérable les prix de l'immobilier qui approchent de très près les prix parisiens avec des salaires provinciaux. Tout cela avec des guillemets. Résultat, il n'y a quasiment aucune possibilité de se loger pour les jeunes ménages. Est-ce qu'il y a une sorte d'inflation de toutes les grandes
villes ?
Alors,
il y a une inflation parce qu'il y a une inflation sur les prix de terrain. Essentiellement, dû au fait que les collectivités sont tenues de fabriquer en face des logements qui sont construits un certain nombre d'écoles, d'équipements publics et de crèches, que les collectivités n'ont plus de ressources et que donc, par exemple, il nous arrive, nous, opérateurs chez Nexity, d'avoir un terrain à une valeur et de devoir financer 40% de supplément de prix des équipements publics. Et donc, du coup, on fabrique quelque chose qui est cher et qui peut effectivement ne plus être compatible avec le revenu des ménages.
Julien Damon ?
À l'achat en tout cas.
Pour le dire de manière souriante et en même temps souligner quelque chose d'important, le problème c'est Paris, mais ce sont aussi les Parisiens. Et les prix, s'ils augmentent avec Aix-en-Provence, c'est parce que pour beaucoup, vous avez des Parisiens retraités qui viennent habiter dans ces villes plus agréables et qui font augmenter là-bas le coût du logement. Alors on peut supprimer ni les Paris ni les Parisiens.
Non.
Mais ces mouvements liés au système de retraite d'ailleurs font que dans des territoires qui auparavant étaient avec des prix tout à fait corrects, aujourd'hui se trouvent confrontés à une demande importante, cette fois-ci non pas dans Paris, mais de Parisiens qui veulent quitter l'Île-de-France.
Ah ben tiens, justement, j'habite dans le Cantal, 300 mètres carrés payés avant 35 ans et la vie est belle. Enfin, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit sur franceinter.fr. Bonsoir Michael. Michael, pardon. Pourquoi Michael ?
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Michael, on vous écoute, allez-y.
Mais Michael, ça marche très bien.
Ah bah,
c'est un prénom verrier.
Ça me fait
voilà,
plaisir.
D'ailleurs, il y en a peut-être qui vont me reconnaître. Hein. Bonjour à tous.
Voilà.
Merci pour vos émissions, France Inter. Moi, je vais aller plus loin que les 300 mètres carrés dans le Cantal. Je vais dire 1200 mètres carrés de plancher. Voilà, accord de ferme en rénovation qu'on a pu acheter parce qu'il était abandonné. Voilà, donc c'est une situation très particulière, mais donc après c'est un choix de vie. Moi je suis né en milieu rural, j'ai étudié en milieu citadin, rencontré ma femme en milieu citadin, on a eu un enfant qui a maintenant 9 ans, et quand il a eu 3 ans, on s'est dit, il ne peut pas grandir là, on vivait à Rouen. Alors je sais pas si ça vous parle.
Oui.
Voilà, donc avec une activité régulière aussi de temps en temps sur Paris, etc. Tout ça, donc la vie citadine, hein, vraiment. Donc, sincèrement, je conseille aux gens de quitter la ville. Fuyez les villes. Vous savez pas ce que vous manquez, mais je vous le dis, hein, sincèrement. Rénover une maison avec un beau cadre de vie, avoir son jardin, ses légumes, il faut revenir pas en arrière, mais j'ai envie de...
Mais je comprends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, j'entends votre choix aussi, Michael. Vous n'êtes pas le seul à avoir fait ce choix, après il faut pouvoir, Alain Dinin.
Oui, Michael, moi, le choix que vous faites, il est totalement compréhensible et peut-être même que j'aurais aimé le faire, si j'en avais eu les moyens ou la capacité ou le courage. Vous avez des enfants?
Oui, un enfant.
Quel âge, a-t-il?
9 ans maintenant.
D'accord. Comment il va passer après le bac en fac? Vous en faites quoi? Et vous allez
Il va s'installer où? Je pense qu'il y a quand même des facs proches de chez nous, en tout cas j'espère. On n'habite pas si perdu que ça. Hein. Nous sommes entre deux agglomérations au milieu de la France, donc Tours et Poitiers.
Il y a une fac à Poitiers.
Je pense qu'il pourra y aller. Donc je m'inquiète pas forcément, si vous voulez, pour son éducation, d'autant que ça va vraiment très bien en ce qui concerne le moment actuel, c'est-à-dire l'école primaire. Donc il est dans un passage encore constructif, on va dire. Voilà, il n'est pas encore sur le collège, le lycée, le questionnement sur le devenir professionnel ou toutes ces choses-là. Voilà. Donc pour en revenir à l'immobilier. J'aurai eu d'autres sujets à aborder par rapport à Stéphane Bern, au patrimoine, à la rénovation énergétique.
Après, une autre fois peut-être, du coup, Michael. Ben non, une autre fois, mais on fera d'autres émissions.
Voilà. Et il faut, parce que les subventions de l'ANA, donc vous avez une subvention, et après, donc vous payez 200 euros de taxe foncière, ensuite vous vous retrouvez à payer 5 fois plus parce que vous avez une subvention pour la rénovation énergétique. Et personne ne le dit.
Et là où je vous suis, Michael, tout le monde, effectivement, n'est pas obligé d'habiter en ville. Après, chacun ses choix. Sylvie, très rapidement, Sylvie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Si vous arrivez à aller vite, c'est encore mieux.
Oui, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Nous avons fait effectivement le choix de travailler pour avoir notre bien à nous, que nous avons acquis. Et sauf que la vie étant ce qu'elle est, actuellement, avant d'être à la retraite, je me suis retrouvée en invalidité. Et une fois que je serai à la retraite, et avec la retraite de mon mari, je ne suis pas sûre de pouvoir conserver mon bien après. Tant que nous serons deux, ce sera possible. Mais si un de nous deux disparaît, ce n'est pas sûr que le survivant ou la survivante...
Attendez, voilà, soyez optimiste, Sylvie, mais embrassez votre mari quand même.
La statistique est pour vous, madame.
Lequel je veux enterrer, ou lui ou moi.
Je vois que vous n'avez pas perdu le moral, c'est toujours ça.
Non, je le garde, effectivement. Mais ceci dit, peu importe, s'il n'y a qu'un seul qui doit conserver la maison, ce n'est pas sûr qu'il pourra faire... qui pourra
conserver le logement.
Tout à fait.
Une réponse, Alain Dinin, du groupe Netflix.
Il n'y a pas de réponse. Ce que je souhaite pour madame, c'est qu'elle soit dans une zone urbaine dans laquelle il y a une demande suffisante pour le jour où elle a besoin de vendre sa maison, d'en trouver le prix qu'elle en a économisé pendant toute cette période. Parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Michael, ça va très bien jusqu'au moment où effectivement on se retrouve dans cette situation et où, au milieu de nulle part, on cherche à vendre son bien et qu'il y a peu d'acheteurs.
Julien Damont,
un mot, la propriété en général protège, elle peut être aussi un piège lorsqu'il s'agit de déménager ou de changer de logement parce qu'on ne peut plus le soutenir avec des problèmes de handicap ou de dépendance ou d'invalidité.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé au téléphone sonne, merci à tous d'avoir envoyé, posé autant de questions que possible et à tout de suite.